Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en direct au studio 621 de la Maison de Radio France pour un masque et la plume consacré ce soir au cinéma et dont un mouvement de grève a empêché l'enregistrement en public avec les hostiles de la critique. J'ai nommé Michel Simon de Positif, Nicolas Chalère de L'Obs, Jean-Marc Lalanne des Inrecuptibles, Xavier Le Herpeur de 7ème Obsession qui est en lévitation depuis qu'il a vu Mylène Farmer dans Ghostland, le film de Pascal Laugier que je n'ai pas inscrit au programme. Est-ce que tu t'es remis de cette visite de Mylène?
Non, je ne me remets d'aucune visite de Mylène. Elle est toujours aussi belle, évaporée, magnifique, intemporelle,
incarnée.
Non, elle ne chante pas parce qu'elle est complètement dans le rôle comme ça de cette mère martyrisée par deux assassins qui vont s'en prendre à ses filles. Et elle est absolument bouleversante. Bon, pas dire que le rôle soit très important puisqu'il lui arrive très vite des malheurs, mais la simple traversée de l'écran par Mylène est un moment de cinéma dont je ne me remettrai jamais. Donc je ne cherche pas à me remettre en plus. Voilà.
Donc et c'est très clair. On ne parlera pas de Mylène ce soir.
Parce qu'on m'a dit que c'était une spéciale.
Mais de style de Scott Cooper et des films de James Franco, Benoît Jacquot, Sophie Fillière, Abdelatif Kechiche, Cédric Kahn et du Test Nota de Cantemir Balagov. Dans le courrier de la semaine, pas tendre nos auditeurs pour La Forme de l'eau. Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur, Sonia Josifor. Quelle bêtise! Le film de Guillermo del Toro, vieillot, poussiéreux, couleurs saturées, musique éculée, non c'est non. Cyril de Colombe, La Forme de l'eau, c'est chiant comme la pluie. Les sentiments, la consistance du héros crustacé, totalement gluant, une vraie soupe. Pierre Selma, le film coche toutes les cases du progressisme, handicap, antiracisme, homosexualité, entre clins d'œil. Trop appuyé et moral mièvre, La Forme de l'eau fait plouf. Bernard Hector du Perreux n'a pas goûté dans ce film. Les niaiseries américaines caramélisées, La Forme de l'eau m'a laissé au bord d'une crise de diabète cinématographique. Fabien Plouchard qui nous écrit de Guyane, où il nous écoute en podcast. Je n'ai vu aucune poésie, je n'ai ressenti aucune émotion. La seule chose qui m'a impressionné, c'est la photo. Pour Valek Tai, La Forme de l'eau est tellement Jeunet, le cinéaste Jeunet, que c'en est presque gênant. Nicolas Guy juge que ce film n'a aucune authenticité et il fait le rapprochement avec un autre film tout aussi artificiel selon lui, La La Land, une sorte de saupoudrage superficiel d'une ambiance recyclée. Et pour Chantal Bourseau, eh bien, le titre est un vol caractérisé du titre, ça c'est vrai, du roman d'Andrea Camilleri, La Forme de l'eau, qui avait paru en 1984.
On n'est pas dans le même registre entre le polar sicilien et
c'est vrai.
La magnificence de Guillermo del Toro.
On met beaucoup de plagiat sur le dos quand même à del Toro, ça devient un peu systématique. Ça.
Alors, ils sont pas davantage tendres, Michel, pour ce film qu'on a encensé.
Juste ce titre, oui.
Et la plume, qui est Phantom Thread, de Paul Thomas Anderson, Pierre Cusor. Quelle déception, 2h15 de grand ennui. Le film se veut vénéneux, mais ce n'est que des platitudes et un défilé d'Europe toutes plus convenues les unes que les autres. Clément Rossignol trouve lui aussi le film d'un ennui abyssal. Lorraine Tilliette, qui habite Genève, comment pouvez-vous encenser Phantom Thread, qui est d'un ennui et d'une lenteur mortelle, dont l'image est trop surléchée, dont la dernière réplique est quand même « Embrasse-moi avant que je vomisse ». Bruno Bastin de Paris, mon masque, ma plume, ça j'aime beaucoup. Vous êtes décidément un garçon et une fille facile, un cadrage un peu propre, une lumière un peu soignée, un acteur un peu pénétré, et hop, vous voilà tous dans le plumard. Phantom Thread.
qui est pénétré.
Et le film, je t'en prie, je savais que t'allais le relever. Et le film le plus ennuyeux que j'ai vu depuis des lustres d'Éric à côté, c'est Mad Max.
Non.
Loïc de Saint-Symphorien d'Ancel, une psychologie de roman de gare dans un milieu people avec au choix de l'aristocrate ou du friquet. C'est un attrape-bobo pour ta mère Von Tefalen. C'est un film assommant, dénué de sujet, de profondeur et d'une lenteur insoutenable pour Jérôme Duvivier. Eh bien, c'est long, sans la pointe de folie qui sauvait There Will Be Blood. Et enfin, Pierre Selma ajoute que pour ce film, pour que ce film soit supportable, il aurait fallu tuer le pianiste. La bourgeoisie s'aime décidément beaucoup. Moi, plus le film avançait et plus j'aimais Staline. Voilà, ça c'est le courrier.
Oui, je pense qu'il y a une masse d'auditeurs qui ont beaucoup plus de talent et qui ne nous écrivent pas. Alors je les encourage à écrire, parce que ceux qui ont détesté ce film extraordinaire de Paul Thomas Anderson...
Non, mais j'ai rappelé que le masque était unanime.
Moi, personnellement, je me sens complètement raccord avec les auditeurs.
C'est vrai
que je n'aime ni le Guillermo del Toro, ni le Paul Thomas Anderson. Donc voilà, je me sens tout à fait du côté du public et je m'en réjouis.
Le public, c'est un million de spectateurs.
Pour la forme de l'eau. Moi, j'y étais pas et je regrette de ne pas avoir participé à cette émission parce que j'aurais abondé dans le sens des présents.
J'aurais dû aussi inviter Jean-Marc pour qu'il exprime un avis différent. Et on commence avec l'événement de la semaine, puisque 5 ans après la vie d'Adèle, Abdelatif Kechiche est de retour avec Mektoub My Love Canto Uno. Il y aura donc une suite. Jean-Marc me promet qu'il y en aura même peut-être une dizaine.
Oui, j'ai interviewé Kechiche. Il disait qu'il envisageait d'alterner des films qui n'auraient pas de rapport avec cette histoire et tous les 3-4 ans, un film où il reprendrait ses personnages. Et idéalement, il aimerait, dans les 20 prochaines années, faire 3-4 suites à ce film-là.
Un film de 3 heures très lointainement inspiré du roman de François Bégodeau, La blessure, la vraie, avec Shahin Boumedine, Ophélie Beau, Salim Keshiouch, Alexia Chardard, Lou Lutio, il y a même Avzia Herzi, mais bon, elle fait une apparition relativement brève. Absolument, mais elle est toujours formidable. On est à l'été 94 à Amine, c'est donc Boumedine, qui vivote en écrivant des scénarios, retourne dans le midi de la France, à 7 exactement, où il a passé sa jeunesse et où ses parents tiennent un restaurant tunisien. Il retrouve ses amis. Ses amis d'autrefois, bien sûr. Et la plage où bronze de jolies vacancières aux fesses rebondies. La fesse est rebondie chez Kechiche, vous avez remarqué?
C'est mieux que la fesse plate. Hein,
et c'est pas nouveau. Enfin, il a toujours aimé les personnes féminines un peu charnues.
Qu'est-ce que vous êtes susceptible? C'était un constat.
Qualitatif, voilà. Je préfère la fesse rebondie à la fesse plate.
Il photographie les couchers de soleil, tombe amoureux de Jasmine, rencontre un producteur qui se dit prêt à financer ses débuts et la femme de ce dernier qui s'intéresse beaucoup à lui, ce qui place Amine dans une situation, comment dire, inconfortable. Chronique donc d'un été brûlant, sensuel, qui s'ouvre avec 2 citations des Évangiles et du Coran, que je n'ai pas apporté avec moi, mais peut-être que vous les avez avec vous.
Dieu est la lumière du monde, les Évangiles. Dieu donne la lumière à qui elle veut, le Coran.
Voilà, bah c'est bien parce que Nicolas, il prend des notes.
À qui il veut, pardon.
Quand il va au cinéma. Michel ?
D'abord, c'est un phénomène éditorial, c'est-à-dire ce film...
Il ne fait pas la haine de positif, hein, le Kechiche.
Non, pas vrai. On a fait un pour et contre, ce qui est très rare dans cette revue, parce qu'il y a des gens qui l'ont aimé. Moi, personnellement, je sais que quand on dit ça, on dit oui, c'est habituel. Je suis un grand admirateur de Kechiche. La graine et le mulet, L'esquive et La vie d'Adèle sont des films pour moi magnifiques. C'est un des grands cinéastes d'aujourd'hui.
Quand tu commences comme ça, c'est toujours inquiétant.
Voilà, je savais que c'était automatique. Mais c'est vrai que cette fois-ci, après La Vénus Noire, pour des raisons d'ailleurs opposées, La Vénus Noire, je trouve que c'était un excès d'idéologie, un excès de théorisation sur l'homme occidental. Bon, j'avais trouvé le film assez lourd dans sa démonstration, s'échappant justement au prodigieux naturel de son cinéma. Ici, c'est le contraire. C'est-à-dire, on est dans une sorte d'impressionnisme, de répétition permanente. C'est-à-dire, je trouve que ça confirme que Kechiche sait filmer la tchatche. Il est merveilleux pour filmer le langage parlé, etc. Il est merveilleux pour filmer les corps. Le problème, c'est qu'il a un orgueil ici démesuré qui fait que il croit qu'il peut effectivement intéresser pendant 3 heures avec des scènes interminables. Il y a une scène de nightclub qui dure environ 20 minutes. Alors, effectivement, Libération a très bien dit que c'était un film avant tout sur le cul des femmes et même sur le cul en général, qui, moi, m'a véritablement gêné. Alors, il se défend, il dit, mais il y a des Vénus Callipyge.
Mais pourquoi gêné? Pourquoi gêné?
Ça m'a gêné parce que j'ai trouvé ça extra. Alors, il y a les pages société dans les journaux et les pages culturelles. Alors, dans les pages société, on a depuis 5 mois des revendications féminines, certainement souvent très justifiées, sur le regard masculin
même
qui
très légitime.
Et là, on arrive dans les pages culturelles où ça ne gêne absolument plus qu'une caméra filme des fesses en permanence. Et il se défend en
les
disant...
Les personnages qui ont existé autrement que comme il ça, il n'y a pas vraiment de réification. Oui. Au moment où ils filment leurs fesses, les personnages ont eu le temps, pendant 2 heures avant,
d'exister
très très fortement comme personnages dans toute leur complexité. Donc ils filment aussi leur corps, mais ils ne filment pas que leur corps.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il se défend en disant, mais en peinture, il y a des Vénus Callipyge. Oui, mais un tableau, ça, on le regarde 10 minutes, on ne le regarde pas 3 heures. Et je trouve qu'il y a une saturation dans ce film qui on a l'impression que Kechiche vraiment pense qu'il peut tout faire, et c'est peut-être pour ça qu'on dit que c'est son plus grand film, parce que comme il va dans une sorte d'expérimentation, mais une expérimentation pour moi extrêmement stérile, quand on voit par exemple le film de Greta Gerwig le mois dernier sur des adolescentes en Californie à San Sacramento, ils sont pas décérébrés.
On a un peu surévalué à mon avis au masque.
Oui, mais ils sont pas décérébrés ces jeunes. Moi je refuse d'avoir une vision de la jeunesse où ils n'ont rien à dire, ils disent des choses absolument inintéressante, ils n'ont aucune préoccupation. Il dit qu'il veut faire un film pour échapper à notre monde horrible d'aujourd'hui, à tout ce qui se passe dans le monde, donc il le situe en 1994. En 1994, il y avait aussi des choses horribles dans le monde. Et je m'étonne que quelqu'un qui a une conscience politique comme Kechiche pense que le but du cinéma, c'est de faire effectivement un film où des gens dansent et se trémoussent pendant 3 heures quasiment. Je trouve ça
Michel,
absolument...
Michel, tu sais que tu risques d'avoir encore 9 volets de ce même Mektouba.
On aura peut-être même le deuxième à Cannes, on ne sait pas.
C'est justement...
Voilà, moi j'étais vraiment exaspéré par l'hubris que ça représente.
Et par, apparemment, et par l'accueil que le film reçoit dans la presse.
Voilà.
Jean-Marc?
Oui, moi je suis pas sûr du tout, je crois même pas du tout que c'est de l'orgueil. Mais effectivement, Kechiche a envie de construire des films dans lesquels on a envie de vivre. Et pour moi, c'est absolument le cas. Et ça ne veut pas dire que dans ce monde-là, il n'y a pas de souffrance. Par exemple, il y a un personnage magnifique de jeune fille qui tombe amoureuse dans la première demi-heure, qui va souffrir de manière extrêmement intense. Et il y a quelque chose de magnifique dans la construction du film, dans la façon dont elle est évacuée du récit pendant 2 heures, et la manière dont le film réorchestre son retour sous forme d'assomption, et finalement, vraiment comme dans un conte de Romère, elle est récompensée malgré le mauvais choix qu'elle effectue au début du film. Je trouve que le film est bouleversant et beaucoup plus construit narrativement qu'on ne le dit.
Oui.
C'est-à-dire que malgré tout, même si le récit est distendu par ces scènes très très longues, ces coulées de cinéma extrêmement impressionnantes, malgré tout, il y a quelque chose de presque romérien dans la manière dont c'est une sorte de conte moral et de trajet amoureux très très construit. Après, moi, sur l'ivresse de cinéma que vise Kechiche, je marche complètement. C'est-à-dire que vraiment, j'ai envie que ça ne s'arrête jamais et je suis récompensé parce qu'effectivement, ça s'arrête. Mais ça prend quand même beaucoup de temps pour arrêter. Et il y a vraiment un sentiment de plénitude, de la lumière, des corps où on a envie de vivre dans ce film que je trouve bouleversant. Alors je ne sais pas si c'est le plus grand film de Kechiche, il a fait quand même 3 très très grands films, mais pour moi c'est en tout cas un des plus grands films de l'année.
Nicolas.
Mais je suis d'accord d'ailleurs, parce que c'est ce qui, de la même manière, je pense pas que ce soit forcément le chef-d'œuvre de Kechiche, mais c'est ce qui est beau dans le film, c'est qu'il y a aussi des moments de flottement, et ce que je trouve vraiment beau dans le film, c'est la manière dont c'est le premier film de Kechiche où je vois, il est vraiment débarrassé de surmoi à la fois social et même de son propre surmoi, parce que le personnage de Amine, d'une certaine manière, à travers ce personnage, il assume beaucoup aussi de ses propres penchants. Notamment voyeur, c'est clair que la manière dont il filme les culs des femmes est absolument ahurissant. Il y a la caméra décadre, enfin, et moi cet hédonisme-là, je le trouve, c'est très beau parce qu'il est en même temps, en parallèle, il y a vraiment un regard de moraliste aussi. C'est ce que disait Jean-Marc, c'est qu'il y a vraiment, il y a toujours ce don, j'allais dire pagnolesque entre guillemets, de dépeindre la communauté.
Tu trouves que ça ressemble beaucoup à Pagnol?
Mais je trouve que les discussions entre les gens de la famille, il y a comme ça ce côté
de comédie très réussi.
Une dimension comédie. On a parlé de Renoir aussi, de Jean Renoir. Mais Jean Renoir, quand il fait La Règle du jeu, c'est en 39, il fait une comédie, mais une comédie où on voit les gens qui dansent sur un volcan, la guerre menace, Hitler a dominé l'Europe. C'est-à-dire, c'est relié à son époque. Et en même temps, je vois pas ce qu'il y a de renoirien dans ce film. Oui, il y a Auguste Renoir qui fait des baigneuses pendant la guerre de 14.
Tu prends La Règle du jeu, encore une fois, c'est un tableau. Campagne. Ce film-là est plus proche d'une partie campagne qu'un film quand même sur une anecdote qu'il déploie de manière sublime. Mais c'est un film mineur de Renoir qui est quand même un très grand
minutes.
Film.
Pardon. 40 minutes.
Alors, Xavier.
Sublime en 40 minutes.
Il y a vraiment. Ne ferons pas toute l'émission sur le film de Kechiche.
Qui le mérite.
Il y a deux scènes qui suivent dans le film qui vont vraiment résume l'art de Kechiche dans ce film. C'est-à-dire qu'il y a une scène de naissance d'une brebis où le personnage
la plus belle scène du film
observe.
Magnifique. C'est magnifique. La naissance des deux.
Le miracle de la création d'une certaine manière. Et à cette scène suit la scène en boîte de nuit qui dure à peu près, je sais pas, un quart d'heure, où là, la simple exhibition des corps sur la piste de danse, on est au bord de la pornographie et vraiment de quelque chose d'un dégoût. Il y a vraiment quelque chose de, non, mais il y a quelque chose de vraiment assez obscène.
Pornographie.
Il y a quelque chose d'obscène qui se dégage de cette scène assez incroyable. Et pour moi, vraiment, l'équilibre du film est là. Et il y a chez Kechiche, j'ai l'impression, c'est un peu excessif, mais c'est un peu comme si les anges de la télé-réalité étaient regardés par l'ange de la création. Et comme ça, il y a un mélange entre l'époque et une envie de sublimation qui, moi, me touche beaucoup, quoi.
Xavier. Mais je ne sais pas si c'est un film d'expérimentation. En tout cas, il a raison d'expérimenter quelque chose. C'est un immense cinéaste et c'est un immense film. Je me fous de savoir si c'est son meilleur, son deuxième, son troisième. Moi, c'est un film, je suis comme Jean-Marc, qui m'a embarqué pendant 3 heures. Je n'avais pas envie de quitter cet endroit qui était plein de soleil, qui était gorgé de mélancolie, qui était gorgé de sexualité, débridée, assumée, gourmande. Moi, quand je lis les procès d'intention, il les fit de manière complaisante, il exploite le corps.
Il
n'y
a pas eu de procès, il n'y a pas eu de plainte. C'est une presse à genoux.
Xavier, il n'y a pas eu.
Michel, où sont les procès d'intention?
À genoux, quand on parle de sexualité débridée, je t'en prie. Reprends-toi un petit peu, nous sommes dimanche. Moi, je trouve que la scène du début où Amine arrive devant la maison où font l'amour, où Ophélie et Tony font l'amour, il y a un plan absolument sublime. C'est qu'une fois que l'acte est consommé, il va prendre sa douche et elle reste sur le lit. Elle est toute seule et on voit un corps magnifique, rond, offert, plantureux, mais dans le meilleur sens du terme, épanoui de bonheur et de jouissance. Et c'est à elle que Kechiche rend la jouissance. Ce qui l'intéresse, c'est ce ressenti de la femme. Et tout le film va être à ce niveau-là. Et s'il était complaisant, le film, il n'y aurait pas le personnage d'Amine. C'est un personnage absolument passionnant parce que dans ce débordement de testostérone, des désirs, lui échappe complètement à ça. Et c'est magnifique parce qu'à la fois, les femmes ne le prennent pas comme un prédateur, ne le prennent pas comme un élément à risque entre guillemets de séduction, elles le prennent par le bras, elles le prennent par la taille, mais elles savent qu'elles ne risquent rien entre guillemets de lui, alors que tout autour d'elles gravitent des hommes qui sont la langue pendante et on les comprend parce qu'elles sont absolument sublimes. Et en revanche, les mecs le prennent pas comme un rival. C'est-à-dire qu'on a un personnage asexué qui va aller à la découverte de son psyché, et de son désir, et c'est bouleversant parce que justement c'est un prisme qui empêche le premier degré et qui apporte toujours une réflexion et une distance dans ces scènes-là, y compris la scène de boîte de nuit qui est magistrale. Donc c'est un immense film.
Vous avez compris qu'on parlait de Make to My Love, Canto Uno, Michel, Canto Uno, donc le nouveau film d'Abdelatif Kechiche. Dans le film français, cette semaine, presque autant de spectateurs pour le Kechiche que pour le film dont on va parler maintenant, c'est-à-dire La Prière, le film de Cédric Kahn, qui raconte ici de manière presque contemplative la rédemption de Thomas, un toxico de 22 ans, c'est Anthony Bajon qui a été primé d'ailleurs je crois à Berlin, et qui rejoint dans la montagne une communauté d'anciens drogués devenus addicts à la prière et au travail manuel. Ça aurait pu être un sujet pour Xavier Beauvois ou Xavier Giannoli, mais là c'est le réalisateur du Bar des Rails, de l'ennui, de Roberto Zucco qui s'y colle. Et dans ce film d'altitude, dans tous les sens du terme, on croise aussi sœur Anna Chigoula, mais aussi Damien Chapelle et Alex Brandemühl. Est-ce que Kahn vous a converti, Xavier?
J'y suis retourné parce que la première fois, lorsque j'avais découvert le film, je le trouvais sans aspérité, assez lisse, très au premier degré. Et j'aime beaucoup Cédric Kahn, donc j'étais ennuyé, j'étais embêté parce que voilà, je mettais sur ma propre, au compte de ma propre responsabilité le fait d'être passé à côté du film. J'y suis retourné et je trouve toujours le film très catholique. C'est-à-dire, je ne vois pas à quel moment le doute dont il parle, l'aspérité qu'on voudrait y voir. Alors on sent bien qu'effectivement le scénario aménagé autour de son personnage principal, des écueils, des rechutes, des difficultés, difficultés, mais elles sont toujours résolues par la prière, par un peu de grâce, par un petit miracle qui n'est pas très réussi, qui est un peu naïf, par quelques baffes que lui assène à Nashigula. Mais on a l'impression que tout est bon dans le gâteau, quoi. Enfin, il n'y a aucun problème. Il y va, ce sera la solution finale, on y arrivera, tout va bien. On exclut complètement les échecs, les personnages, en tout cas, qui ne reviennent pas dans cette... Moi, ce que j'appelle un peu une secte, hein, je suis...
Non.
Ah, il y a quand même de la mort qui survient, il y a des choses assez violentes.
C'est une communauté.
Ouais, mais toutes les rires, ça marche pas dans le film. Le personnage principal, au début, je me suis dit, c'est formidable, c'est un film sur l'emprise du groupe, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il échoue, qu'il chute, tout le monde lui dit, c'est ta faute, c'est ton orgueil. Et je me suis dit, voilà, c'est un film formidable sur la manière dont le groupe ne veut pas se désolidariser de la solution. Et il met sur le dos, mais ça, c'est très gâteau, de celui qui doute, la responsabilité, l'échec et tout ça. Mais on n'est pas chez Bernanos, on est pas chez Bresson, c'est-à-dire qu'il y a un film quand même. Michel parlait de 20 minutes dans la boîte de nuit. Moi, j'ai 4 minutes ou 5 minutes où ils chantent tous à la guitare autour d'une table de bois.
Excuse-moi, mais ça n'a rien à voir avec Bernanos et Bresson. Rien. Ouais. Tu as dû partir avant la fin. Mais comme je veux pas raconter la fin,
non, je ne suis pas,
je ne raconterai pas la fin, mais si tu avais vu la fin du film, tu verrais que ça n'a rien à voir.
Mais Michel, si tu avais écouté ce que je disais, tu aurais entendu que je disais que justement, on n'est pas chez Bernanos et on n'est pas chez Bresson.
Oui, mais tu parlais du moi, esthétiquement.
Non,
c'est pas du tout un film clérical, c'est pas du tout un film catholique, ça n'a rien à voir.
C'est quand même,
c'est un film fait par un agnostique.
Non, Michel, c'est quand même au premier degré, je trouve que la solution, elle est toujours là.
Je suis pas d'accord.
Moi, je suis désolé, mais non, franchement, c'est un film qui me déçoit.
Alors Michel,
oui, alors
tu
d'abord
peux
je pense que c'est pas un film sur la religion, d'abord c'est un film sur la foi. C'est-à-dire un homme qui est effectivement intoxiqué, qui est sous les drogues,
foi,
etc., et qui veut remonter la pente. Voilà. Et donc qui trouve dans la foi une possibilité pour lui de remonter la pente. Donc d'abord, il doit renoncer à l'orgueil. C'est un petit clin d'œil à Kechich. Il renonce à l'orgueil et il se retrouve dans une communauté. Voilà. Alors, là, effectivement, il y a un côté presque documentaire et même, oui, je dirais même bressonien dans le dépouillement, dans la façon de filmer. Parce que Kahn, c'est le plus grand disciple de Piala. Il est tout à fait dans la tradition de Piala. Il a une façon merveilleuse de filmer justement le côté brut des choses, les émotions.
Tu vois l'aspérité, tu vois le.
Attends. Et d'autres, c'est donc d'une part, il y a un côté quasiment documentaire, comme il pouvait y avoir du documentaire dans Le Condamné à mort s'est échappé. Il y a d'une part ce côté documentaire sur cette communauté qu'il filme merveilleusement bien, comme d'ailleurs Vie sauvage, le précédent film, qui lui aussi était sur une communauté où le père entraînait
dans l'obscurité, dans la nuance,
ses deux enfants.
Michel, là, attends, il y en a pas tant que ça.
Tu permets.
Tu m'as interrompu.
Et en même temps, c'est aussi une fable. C'est une fable sur l'amour profane et l'amour sacré. Ce film parle des deux tentations de l'être humain, l'amour sacré, comme dans le tableau du Titien, l'amour sacré ou l'amour profane. Alors je ne vais
comme
surtout pas raconter la fin, mais si tu regardes le film jusqu'à la fin, tu vois que il choisit l'amour profane. Donc il n'y a absolument aucun prosélytisme, il n'y a aucun côté clérical, etc. dans ce film. Simplement, c'est un agnostique.
Non.
C'est un agnostique
Michel,
qui peut être fasciné. Il peut être fasciné par une communauté.
Tu peux pas résumer le film à la scène de la fin. On a
quand
même vécu pendant 1h40 dans cette communauté.
Moi, je suis athée, je peux lire Bernanos et je peux voir Bresson.
Mais moi aussi, le problème n'est absolument pas là.
Mais le film n'est pas du tout dans cette lignée-là.
Mais bien sûr que si. La rédemption, elle passe par la foi et par la prière, et la foi, elle n'est pas tournée.
Mais
je suis désolé.
On peut pas parler de la fin.
Elle est donnée. Jean-Marc et Nicolas.
Non, c'est vraiment pas un film mystique. Et moi, ce que j'aime bien dans le film, c'est qu'il a une vision totalement utilitariste de la religion. C'est vraiment sur la prière, mais la prière presque comme outil concret pour réussir sa désintoxication.
Et le travail manuel, ne l'oublie
voilà.
pas.
Oui. Et c'est vraiment un cinéaste qui est du côté du concret, de l'empirique, du pragmatique. Sa mise en scène est comme ça, et il filme très bien ça, des gens qui font des exercices quotidiens pour se déprendre de quelque chose qui les détruit. Et ce qui est beau dans le film, c'est que dans le dernier quart, il va apprendre à se déprendre de ce qui lui a permis de se libérer. Il faut qu'il se libère aussi de l'outil par lequel il s'est libéré, et ça c'est vraiment très intelligent, je trouve. Après, moi je trouve pas le film immense, mais c'est quand même, je pense, le meilleur film de Cédric Kahn depuis au moins une dizaine d'années. Et j'aime beaucoup cette qualité de concret qu'il y a dans son cinéma. Mais je pense qu'il n'est pas du tout du côté du spirituel. C'est presque un peu sa limite.
C'est
un film qui s'appelle La Prière.
Il a un point de vue très ambigu.
Et forcément.
Et assez iconoclaste
du côté du spirituel.
Sur la prière, je trouve pas.
Nicolas. Je suis d'accord avec Jean-Marc. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, il y a le film et sur, il a tellement peur. Effectivement, il utilise la foi comme quelque chose de, enfin, en tout cas, la religion comme quelque chose d'utilitaire. Et c'est plus sur la foi en l'autre, la foi en soi, la fois en une amitié, et c'est à travers l'amitié et l'amour de l'autre qu'il va finalement s'en sortir. Et c'est presque une espèce de réapprentissage de la vie. Et le problème, c'est que le film, dans son style aussi, il a un style très sec, très factuel, très comme ça, qui est très tenu. On peut pas lui reprocher ça. C'est que vraiment, il sait où il va. Et en même temps, à la fin, il cède quand même. Il y a une scène de miracle subjectif, on va dire. Où il cède quand même à une espèce de petit doute qui est pas très bien amené, je trouve. Et moi, paradoxalement, c'est aussi la limite du film, c'est que je trouve que le film manque un peu de grâce. C'est-à-dire qu'il il a ce côté très très factuel et très tenu et très sec. Et moi, j'aurais aimé qu'il ait un peu plus de grâce, justement, ce qu'il y a dans le Kechiche, même si voilà. Et c'est normal qu'il ait voulu se retenir d'aller vers cette grâce-là, puisque là, il serait peut-être tombé dans quelque chose de trop mystique. Donc, c'est un film que je trouve abouti dans son ambition, et en même temps qui, moi, me laisse un peu sur ma
c'est
faim.
La le retour prière, à le film de Cédric Kahn. Tu voulais de la grâce, en voici, avec ce Disaster Artist, ou l'artiste du désastre, le film de James Franco, avec James Franco soi-même, dans le rôle-titre consacré au roi du nanar, au Don Quichotte de la daube, j'ai nommé Tommy Wiseau, aujourd'hui âgé de 62 ans. À qui l'on doit, paraît-il? Mais je crois qu'ici, seul Nicolas l'a vu. Pire film jamais réalisé. Une sorte de nanar culte, La Chambre, qui est sorti en 2003.
The Room.
Un film dont certains disent qu'il semble avoir été écrit par un analphabète, réalisé par un myope et joué par des zombies. Franco s'est donc fait le look extravagant. Il faut dire, j'ai vu les photos de Tommy Wiseau, sorte de Dracula ringard aux longs cheveux teints, à la mine blafarde, aux lunettes noires et à l'accent polonais. Parce qu'en fait, il est d'origine polonaise quand même, ce Wiseau.
On ne sait pas d'où il vient, c'est très flou.
Il raconte donc dans le film la mégalomanie du bonhomme, son narcissisme, mais délirant, c'est au-delà du narcissisme, jusqu'à la dernière scène, qu'on ne va pas raconter bien sûr, c'est-à-dire la projection publique du navet XXL, un film qui est un peu dans l'esprit du Ed Wood de Burton. Donc Nicolas, tu as vu The Room, toi?
Oui, j'ai vu.
Est-ce que c'est vraiment le... Est-ce que ça mérite le titre de olympique de champion du nanar?
Ben pas loin. C'est-à-dire que c'est vraiment le personnage de Wiseau qui mérite ce titre-là. C'est-à-dire que effectivement, c'est toujours les formules marketing comme ça. Moi, je m'en méfie. Et en même temps, quand on voit le film, c'est vraiment parce que ça sort de l'esprit malade de ce type. Qui est donc comme tu l'as dit une espèce de il a un look de hard rocker des Carpates,
oui,
avec des lunettes noires, un teint blafard.
Oui.
Alors il a tourné quand même, il a autoproduit ce film The Room pour 6 millions de dollars dont on n'a jamais su d'où il venait, et il avait des espèces de lubies, donc il a tourné tout le The Room a été tourné à deux caméras, une caméra en numérique, une caméra en pellicule avec deux équipes. Enfin voilà, il s'est fait installer des toilettes à 6 000 dollars au milieu de la pièce, il arrivait à la moitié de la journée sur le tournage alors que tout le monde attendait. Enfin c'est une histoire délirante qui est racontée dans le livre de Disaster Artist. Disaster Artist écrit par l'acteur qui avait pris Wiseau sous son aile, qui s'appelle Greg Sestero. Le bouquin est absolument formidable.
Et le livre est
lire.
Disponible en français.
Le livre il est sorti il y a un mois chez Carlotta. Et alors faut lire le livre. Et alors quand on a lu le livre, malheureusement, le film de Franco est vraiment pas du tout à la hauteur. C'est-à-dire que tu parlais d'Ed Wood, ce serait vraiment
de l'esprit, hein.
L'esprit d'Ed Wood, mais c'est vraiment un Ed Wood. Pour le coup, il manque la poésie qu'avait amené Tim Burton. Où c'est une succession. Il reprend les anecdotes du bouquin. C'est assez anecdotique. C'est filmé sans vraiment sans recul, avec une espèce de premier degré un peu balourd. Alors que dans le livre, ce qui est passionnant dans le livre, c'est qu'à chaque début de chapitre, il y avait en exergue une citation de Sunset Boulevard et du talentueux Monsieur Ripley. Et pour moi, le film qu'aurait dû être Disaster Artist, c'est ça. C'est un mélange des deux. C'est à la fois cette espèce d'Hollywood des losers, de l'illusion du star system qui est ce Sunset Boulevard, et puis ce rapport très ambigu et très trouble entre un jeune type et un autre qu'on soupçonne d'être un imposteur, qu'il y a dans Ripley. Et malheureusement, Franco, la seule chose qui est intéressante dans le film, c'est quand on le voit au regard de sa carrière à lui. C'est-à-dire que je pense que Franco, qui pour moi est pas un très bon acteur et qui est quelqu'un complètement hyperactif, obsédé par le syndrome de l'imposteur, c'est un autoportrait assez fascinant de Franco.
Michel, c'est étonnant qu'à Positif, vous n'ayez pas vu le film de Wiseau.
Non, j'ai pas vu The Room, et d'ailleurs, j'ai regretté de ne pas avoir vu The Room plutôt que The Disaster Artist. Parce que entre un cinéaste médiocre et un cinéaste nul, je préfère le cinéaste nul, parce que le cinéaste nul, au moins, m'aurait fait rire. Alors, je suis resté de marbre devant cette
Pour ce toi, film. Tout Franco, c'est du médiocre.
Oui, mais ça a commencé avec le premier Franco, d'horrible mémoire. Ensuite, il y a eu Geste Franco. Et donc, je pense que Franco est un nom calamiteux. C'est un nom calamiteux. Et ce film, vraiment, ne m'a absolument pas déridé. Et effectivement, tu as raison de citer ce film magnifique de Tim Burton, où il y a une scène entre Orson Welles et Ed Wood, et on se rend compte que le génie et le nul, tous les deux sont animés par l'amour du cinéma. On ne ressent rien de ce tel dans ce film, pour moi, assez désastreux.
Xavier.
C'est un making-of sans aucun intérêt, criard, caricatural, interprété par des acteurs qui veulent absolument faire un numéro. Il y a Seth Rogen aussi dans la distribution. Et effectivement, le pire...
Mais il n'y a pas, tu as remarqué qu'il n'y a pas Mylène Farmer.
Hélas. Elle y est pas. Sinon, j'aurais quelques complaisances ici à ce micro. Et hélas, effectivement, le pire qu'on puisse faire, c'est de lire le bouquin The Room, qui est absolument formidable. Et on se dit que James Franco, par souci de se distribuer ce qu'il croyait être le meilleur rôle, c'est-à-dire celui de ce réalisateur, est passé à côté de l'intérêt de cette histoire-là. C'est effectivement vu par ce gamin qui est pris, donc, comme l'a très bien dit Nicolas, sous l'aile du réalisateur. Et comment il est fasciné par ce type-là, comment il, alors qu'il est lucide, il voit bien que le mec est mauvais, qu'il n'a aucun talent.
Pourquoi est-ce c'est vraiment le sujet du film, en fait.
Non, c'est le sujet du bouquin, c'est pas le sujet du film. Le sujet du film, c'est de reconstituer ça. Et on a d'ailleurs à la fin une espèce d'effet comparatif entre le film et ce que James Franco en a fait. Et il nous montre comment il a bien travaillé, comment il a exactement produit les images. Mais on s'en fout, il fallait raconter autre chose, il fallait raconter l'emprise, il fallait raconter comment ce type arrivait à fasciner tous les jours une équipe qui le prenait pour un brin cassé et pourquoi tout le monde y retournait. Alors il y a deux, trois scènes jolies d'acteurs qui se disent c'est ma dernière chance, c'était mon dernier rôle. Il y a cette femme âgée qui joue la mère du personnage et ça c'est vraiment bouleversant.
Et mon dernier cachet surtout.
Et son dernier cachet. Mais le roman dit beaucoup plus quelque chose sur ce rêve, sur la manière dont ce type fou fascine, emporte avec lui des gens. D'où vient son argent, on ne sait toujours pas. Il continue d'acheter et de payer un panneau publicitaire pour The Room, qui aujourd'hui encore est à Hollywood, près de 15 ans après la sortie
Il est venu à Paris au Grand Rex pour la projection.
Parce qu'il est arrivé aujourd'hui.
James Franco, il est arrivé comme une star, je parle de Viso. Hein.
Oui, Viso. Il est arrivé comme une vraie star. Et avec toujours à côté de lui, ce Greg Sestero, donc l'acteur qui l'a pris sous son aile, qui lui vit tout ça, malgré lui, avec un visage complètement impassible.
Mais c'est ça qu'il fallait raconter.
C'est ça qui est fascinant.
Ça qui est dans le film.
Mais et non, il a donné le rôle à son propre frère, Dave Franco, dans le film. C'est ça qui est
moi, le film, je trouve vraiment très beau et très, très émouvant. Et ce que je trouve très beau, c'est que le personnage, a priori, était un personnage de comédie, un personnage donné comme ridicule a priori. Et Franco, au contraire, réussit à le rendre très émouvant. Et pour moi, beaucoup plus que Guillermo del Toro, c'est une adaptation extrêmement réussie de La Belle et la Bête. C'est-à-dire que c'est un personnage un peu monstrueux qui, peu à peu, va réussir à attacher à lui et à avoir une vraie emprise sur cet FM dont il est manifestement très amoureux. Et
je trouve que cette histoire d'amour... Tu as 40 auditeurs
avec toi. Pardon ?
Tu as 40 auditeurs.
Mais c'est pas mon critère, je m'en fous.
Ceux qui ont écrit les lettres.
Donc c'est un très beau film d'amour, absolument magnifique. Et effectivement, la satire du cinéma, la réflexion sur ce que c'est que la création, ce que c'est le génie, ou au contraire, être très mauvais, c'est pas tellement son sujet, mais c'est un très beau film d'amour.
Et bien, raconter à travers ce personnage dont est amoureux le metteur en scène aurait été plus intéressant que de se
présenter. Moi, c'est articulé. James Franco. Et donc, si vous voulez lire le livre, c'est chez Carlotta.
Carlotta, The Disaster Artist.
Hostile au pluriel, un western, un vrai western, signé Scott Cooper sur une idée de feu. Le scénariste Donald Stewart avec Christian Bale dans le rôle du capitaine Blocker, un grand tueur d'Indiens et grand lecteur de la guerre des Gaules de César. Il est chargé d'une mission qu'il accepte de mauvaise grâce, ramener sur la terre de sa tribu le chef Cheyenne Yellow Hawk, qui est joué par Westy, qui est son prisonnier et qui est en train de mourir. Un long périple entre le Nouveau-Mexique et le Montana, au cours duquel les ennemis d'hier vont devoir s'unir pour résister aux Comanches, aux trappeurs, aux déserteurs en cavale. J'en oublie, en chemin, eh bien, ils rencontrent une jeune veuve qui est jouée par Rosamund Pike, qui va les accompagner. Et à la fin, ça dure quand même 2h15, hein, presque 2h15. La fin qu'on ne racontera pas, je peux juste dire qu'on passe tout d'un coup, et c'est assez, comment dire, symbolique, du 19e au 20e siècle. Jean-Marc.
Oui, c'est le sujet du film, la fin d'un monde, la fin d'un système de valeurs, une bascule idéologique. Le film est quand même un tout petit peu trop discursif et démonstratif.
Et un peu long. Et un peu long.
Et un peu long.
Et un peu long.
Et un peu trop dans un souci diplomatique de ménager tous les partis. Mmh. Enfin, il y a une sorte de politiquement correct absolu qui fait que même les militaires, même s'il y a des criminels de guerre, à un endroit, ils sont quand même exemplaires. Et je trouve que le film est un peu trop rusé dans sa manière d'articuler tous ces points de vue. Il y a malgré tout des qualités de facture, enfin il y a des moments de cinéma dans le film, comme par exemple une attaque d'Indiens, vraiment très réussie en termes de mise en scène. Et malgré tout, moi j'avais le sentiment d'assister à des funérailles, en fait, avec ce que ça peut avoir de compassé, et où à un moment donné, tout le monde...
C'est pas compassé, c'est classique, c'est pas compassé.
Moi je trouve des choses extrêmement compassées, et même de crisper dans la manière dont tous les... de trop cérémonial, je trouve, un peu empoulé dans la forme, et dans cette manière dont tout va finir par une espèce de grand larmoiement, où tout le monde se fait de grands hugs en s'excusant pour tous les meurtres que sa civilisation a sur les bras. Je trouve que voilà, j'ai le sentiment d'être à des funérailles de gens que je connais pas et à un moment donné de me sentir extrêmement extérieur à tout ça.
Moi, je trouve ça assez culotté quand même d'oser faire un vrai western aujourd'hui, non ? Vous trouvez pas, Xavier ?
Non, moi je suis un peu comme Jean-Marc. Je trouve formellement le film tout à fait remarquable, mais bon. Scott Cooper, on l'avait découvert avec Les Brasiers de la Colère et c'est quelqu'un dont on sait le talent. Après, moi, j'ai un vrai problème avec le scénario qui est effectivement très explicatif, voire de temps en temps.
Très linéaire, surtout. Très linéaire.
Un peu manichéen. C'est ce qui va se passer. Ça commence par le massacre d'une famille, typiquement la petite maison dans la prairie, hein. Le père, la mère, les deux filles et le petit bébé. Donc voilà. Tout le monde y passe sauf elle, qui sort de là couverte de sang et hébétée. Elle va l'être longtemps hébétée. D'ailleurs, on a droit à un dialogue au bout d'une demi-heure où un des soldats dit au capitaine, oh, je crois qu'elle est détruite. Ah bah oui, ça va. Elle a pas fermé la bouche depuis 15 jours. Donc, je pense qu'effectivement, elle a un petit problème. Et puis, immédiatement après, on a la compassion des Blancs qui acceptent de libérer un chef, Sioux, de demander à un capitaine de l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure où il pourra mourir sereinement. Donc déjà, cette ouverture avec l'extrême violence des Comanches. Alors après, on nous explique que les Comanches, c'est des très très méchants chez les Indiens. Puis en même temps, cette mansuétude que découvrent les Blancs et que va découvrir malgré lui le capitaine interprété par Christian Bale. On a l'impression que lui aussi, il y va à la composition, il va en faire des tonnes. À un moment, il est là, les main dans la terre où sont enterrés ses amis qui ont été tués par les méchants indiens, et il leur demande pardon. Je trouve que quand même tout ça est un tout petit peu compliqué, enfin un tout petit peu manichéen, un petit peu simpliste, tout ça pour en arriver à un classique, c'est-à-dire qu'on a 10 personnes pratiquement qui vont accompagner Chef Hugh. On a très vite compris qu'ils vont tous y se passer les uns après les autres.
Ah non, on ne sait pas ce qui va se passer du tout. On ne sait pas ce qui va se passer.
C'est une naïveté quand même.
Mais non, Xavier, je voudrais simplement limiter le courrier cette semaine.
Non, mais c'est comme un sacre à la tronçonneuse, on sait qui va. Après, on s'amuse à savoir qui va y passer en premier et j'avais gagné. Voilà.
Bon. Michel.
Non, moi je trouve que c'est absolument rien de manichéen dans ce film. Alors c'est vrai qu'il y a eu, il y a trois phases du western. Il y a eu d'abord les westerns anti-indiens, tous des sauvages. Ensuite il y a eu le western d'Elmer Daves, Anthony Mann, au contraire l'Indien est noble, magnifique, etc. Danse avec les loups. Et puis là on voit un film beaucoup plus complexe. Il n'y a aucun manichéisme. On montre que à l'intérieur des tribus indiennes, il y a des comportements très différents. C'est-à-dire les Comanches qui font le massacre du début du film, c'est pas du tout la même chose que les Cheyennes. Les Cheyennes sont pas la même chose que les Apaches, donc il y a déjà une diversification.
Et ça, on montre fait, Michel.
Les Blancs, c'est la même chose, il y a des choses très différentes, et on voit par exemple que ce général ou ce colonel qui raccompagne le Cheyenne dans le lieu où il va mourir,
il est capitaine.
C'est son ennemi, mais finalement, ils ont partagé ensemble quelque chose qui les rend, finalement, c'est un peu la grande illusion de Renoir, enfin, entre l'allemand et le français, qui finalement, ils ont une sorte d'estime réciproque parce que ils sont passés par les mêmes épreuves, ce qui n'est pas le cas de gens qui sont restés en dehors des bagarres. Donc, je trouve le film, outre ses qualités plastiques, c'est quand même, on retrouve tout ce qu'on aime. Le western est un genre extrêmement classique. Il y a pas de western vraiment révolutionnaire, mais en ce moment, il y a très peu de western,
chez Tarantino.
Non, mais pas du point de vue du langage cinématographique. On fait pas des révolutions comme il y en a dans Citizen Kane ou d'autres films. Non, c'est un film classique, mais les westerns récents, c'est-à-dire Django Unchained, True Grit, The Revenant, c'est tous des films quand même tout à fait passionnants. Donc on en fait très peu, mais ils sont souvent très intéressants et celui-ci en fait partie.
Hostile de Scott Cooper que Nicolas n'a pas vu. pas plus qu'il n'a vu Eva, le film de Benoît Jacquot, d'après le roman de Chase qui avait déjà inspiré en 62 le film, évidemment, vous le savez, de Joseph Losey, avec Jeanne Moreau dans le rôle que tient aujourd'hui Isabelle Huppert, c'est celui d'une prostituée, ou plutôt d'une bourgeoise qui se prostitue du côté de la Savoie et dont le mari est en prison. Elle subjugue, elle ensorcelle un jeune et prometteur dramaturge, Bertrand, c'est Gaspard Ulliel. En fait, c'est un imposteur qui doit son succès à une pièce qu'il a dérobée à un vieil auteur anglais juste après sa mort. Ça, on peut le raconter, c'est la première scène du film. On est troublé, enfin moi je suis plutôt troublé par la froideur avec laquelle Jacquot traite la relation perverse, romantique et parfois passionnelle entre Eva et Bertrand. C'est un des films de la longue actualité d'Isabelle Huppert au cinéma ce mois-ci. Michel ?
C'est-à-dire, je suis aussi stupéfait par l'accueil unanimement défavorable fait à ce film et à l'accueil hyperbolique fait au film de Kechiche. C'est-à-dire, je trouve que le film de Jacquot, tu as raison de dire qu'il y a une certaine froideur, mais ça, c'est le cinéma de Jacquot en général. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui distille les choses plutôt qu'il ne nous les impose.
Mais ce sujet-là, enfin, ce Chaise-là appelle la brûlure.
Pas automatiquement. Ah, je pense que Losey, évidemment, qui avait fait déjà une adaptation d'Eva, qui est un des chefs-d'œuvre de Losey et un des grands films de Jeanne Moreau, était déjà un film assez froid, assez distant. Et l'intérêt du film, c'est que Jacquot n'a pas du tout essayé d'être sur le même terrain que Losey. C'est-à-dire que tout se passait à Venise, dans le milieu du cinéma. Il y avait un style baroque avec des miroirs, de l'eau, etc. C'est un film magique dont on... qui n'avait pas une très bonne réputation, mais à mon avis à tort, alors que ce film-ci, c'est l'histoire effectivement d'un gigolo et d'une prostituée, et de cette étrange fascination et cet étrange jeu de dupes qu'il se livre, avec une très grande fluidité de la caméra, une très grande élégance.
Sauf qu'on ne le comprend pas. On ne le comprend pas, je veux dire, du point de vue sentimental, enfin, c'est mon sentiment, hein, mais...
Moi, j'ai été sensible au film.
Je ne
dis pas que c'est le plus grand film de l'année, mais c'est un film qui m'a séduit par justement peut-être cette distance qui fera qu'il vieillira mieux que d'autres films qui n'ont pas ce côté distillé et qui emportent l'adhésion tout de suite, mais qui vieillissent.
Jean-Marc ?
Moi, je trouve le film vraiment très raté, au contraire de Michel. Et je pense que Benoît Jacquot vise un peu la stylisation et l'abstraction des derniers films de Fritz Lang, des derniers films américains de Fritz Lang. C'est une sorte de ballet de signes totalement désincarné, mais sans du tout trouver l'élégance formelle, alors même que Jacquot est plutôt un très grand styliste. Là, je trouve que tous les paramètres dans ce film sont dérégulés, qu'on a le sentiment que les acteurs ne jouent pas dans le même film, que les scènes ne vont pas ensemble. Il y a quelque chose, pour le coup... qui, à mon avis, n'est pas loin du navet, quoi. Il y a vraiment une hétérogénéité dans le film. On a l'impression que quelque chose ne se trouve pas, sauf dans la première scène que tu as décrite et qui est très très forte et qui est un concentré de tout ce que Jacquot fait le mieux sur l'humiliation, sur la violence
qui est terrible,
sociale.
Qui est terrible.
C'est une scène d'une
le
très
sens,
grande cruauté.
Le sens
et quand
de cette
il redit
scène,
ça sur le long, dans le long métrage, ça ne va pas du tout. Et je pense en plus que Benoît Jacquot et Isabelle Huppert ne se portent pas chance. C'est-à-dire qu'ils ont tourné 6 films ensemble et Isabelle Huppert, qui est très souvent géniale, je pense que les films de Jacquot sont pas ses meilleurs films, et inversement, je pense que les films de Jacquot où elle joue sont loin aussi d'être ses meilleurs films, alors que par exemple Les Adieux à la Reine est un chef-d'œuvre, enfin je pense que Jacquot est aussi un très grand cinéaste.
C'est avec les assez doux.
Mais que ce film-là est extrêmement raté.
Xavier.
Moi je suis d'accord avec toi, je suis pas sûr qu'on comprenne, mais en revanche, je suis complètement d'accord avec Michel, je trouve qu'on ressent vraiment ce qui se passe entre les deux, ce jeu de manipulation, ce jeu de surveillance, ce jeu où on essaye de s'attraper, ce jeu où on essaye d'avoir le pouvoir sur l'autre. C'est vraiment moi ce que j'ai ressenti, je ne sais pas si c'est ce que voulait faire Jacquot, et je trouve que tout passe par la mise en scène, alors déjà par l'interprétation de Gaspard Ulliel, que je trouve absolument remarquable dans le film. C'est-à-dire qu'on le voit effectivement au début, dans cette scène que tu as très bien décrit, Jean-Marc, et puis il gagne en carnation, il gagne en violence, il gagne comme ça, en espèce de pouvoir.
Mais le tu
pouvoir...
trouves pas qu'il n'est pas dans le même film que Huppert ? C'est-à-dire qu'il est très premier degré, ça, et elle est totalement absente.
Ouais, mais ce qu'il fait, moi, m'intéresse énormément, parce que justement, il croit pouvoir détenir quelque chose comme ça, d'une violence, d'une assise, d'une présence, et il va se heurter à quelqu'un qui pratique cela depuis de nombreuses années. Et c'est là où la mise en scène de Jacquot m'intéresse, c'est qu'elle travaille le champ et le hors-champ de façon absolument remarquable. Et il y a toujours une tension qui arrive, il y a toujours quelque chose de menaçant qui n'est pas à l'intérieur du cadre, qui est toujours un peu peu en bord cadre comme ça, mais qui pourrait constamment détourner, précipiter les choses. Et honnêtement, alors c'est peut-être pas le film, le meilleur film de Jacquot, mais c'est quand même extrêmement intéressant formellement.
C'est donc Eva de Benoît Jacquot, et je signale La caméra de Claire, toujours avec Isabelle Huppert, le film de Aung San Suu qui est également sur les écrans en attendant Mrs. Hyde qui va arriver aussi dans quelques jours. Ben, il est déjà 20h46, il faut aller vite. Je voudrais qu'on parle quand même de Tesnota, Une vie à l'étroit, l'étonnant premier film d'un russe de 27 ans qui s'appelle Kantemir Balagov, qui fait d'ailleurs la une, Michel de Positif avec Daria Zovner, Veniamin Katz, Olga Dragunova. Ça se passe en 98, là, dans une petite ville du Caucase et dans une famille juive qui vit entassée et qui tient un garage. Et au moment où leur union était célébrée, le fils aîné de la famille, David, et sa fiancée Léa sont enlevés par la mafia locale qui réclame une grosse rançon pour leur libération. Les parents et la sœur de David, qui s'appelle Iliana, une garçonne interprétée par Daria Zovner, vont tenter, sans prévenir la police, c'est important, de rassembler l'argent demandé. Il ne faut pas en dire davantage sur l'intrigue. C'est filmé au format carré, c'est oppressant au possible, étouffant au possible. Donnez-moi très rapidement des bonnes raisons d'aller voir Tesnota, et on commence par Nicolas, qui l'a vu et aimé.
Oui, bah, c'est déjà parce que c'est la révélation d'un cinéaste, qui vient de l'école de Sokourov, qui vient de Natchik justement, et qui a, puisque c'est inspiré d'un fait divers réel, et qui a un sens, j'allais dire un sens de l'atmosphère, une manière. Déjà, il parle de communauté et communauté juive et communauté kabarde. Donc il y a un côté Roméo et Juliette dans son film qui est assez beau, avec un personnage féminin central qui est époustouflant, qui a une espèce de soif de vivre dans cette espèce de communauté enfermée sur elle-même et qui essaie de faire exploser les choses et les traditions ancestrales est un peu étouffante. Et voilà, et donc il a un sens de la couleur, de l'espace, de l'atmosphère qui est assez ahurissant, et sa manière de traiter de la famille et de la tragédie à venir, moi, me fait penser autant un peu à James Gray, son sens aussi de la chaleur familiale, il y a un peu de Bergman de temps en temps. Enfin, c'est un film qui part dans plein de sens et qui pourrait ne pas se retrouver, et il y a un vrai cinéaste derrière qu'on a envie de suivre.
Une bonne raison pour Jean-Marc d'aller voir Tesnota.
Une seule raison, je dirais, l'actrice et le personnage. L'actrice est vraiment géniale.
Elle est incroyable,
et ce personnage qu'on découvre dans un garage.
Son nom, Daria Zovner.
On la découvre dans un garage où elle fait de la mécanique avec son père, et ça raconte tout, en fait. Tout son désir d'émancipation, la manière dont elle va se démêler de ce dont elle hérite en tant que femme, c'est vraiment un trajet assez poignant.
Xavier.
Une tragédie contemporaine, magistralement écrite, qui a un sens du récit qui est impressionnant, qui emprunte vraiment à toutes les grandes tragédies, à toutes les grandes héroïnes, qu'elles soient de la mythologie ou qu'elles soient shakespeariennes. Il y a un personnage, ou même Dostoïevski, évidemment, auquel on pense. Il y a une façon de la regarder, il y a une façon de la voir se sacrifier, il y a la façon de l'accompagner. On n'est jamais dans le manichéisme ou la simplification. On est toujours dans une espèce de noyau, comme ça, très contrasté, très violent, de dualité, d'ambiguïté. Il y a des scènes impressionnante. Peut-être que ce sont les limites du film, c'est-à-dire que de temps en temps, il veut un peu montrer qu'il a le pouvoir, mais il a un tel talent que c'est
encore une fois un premier film.
Et en revanche, quand il raconte la manière dont la communauté essaie de récolter l'argent et qu'elle n'en aura que la moitié, et qu'il faudra donc, tel Salomon, choisir entre l'un ou l'une des kidnappés, c'est une scène d'une violence feutrée extraordinaire.
Michel.
Mais je me rappelle d'un texte de André Breton qui écrivait en 37, au moment où Barcelone était en flammes, il disait est-ce que un tableau peut tenir face au journal du soir? Et je trouve que ce qui est très fort dans ce film, je veux pas lancer une pierre dans le jardin de Kechiche, c'est que justement, quand on voit ce film, on a le contexte, c'est-à-dire on a la rumeur du monde, on a le monde épouvantable dans lequel nous sommes, à travers une histoire qui est à la fois un thriller, qui est une chronique familiale, un portrait de femme, et filmé en 1,37 dans un format étroit, parce que le sous-titre du film « Une vie à l'étroit », qui est d'ailleurs la traduction du russe, tout est à l'étroit dans ce film. On étouffe, on est dans des cadres qui enserrent les personnages. Pour moi, c'est la grande révélation du Festival de Cannes de l'année dernière. Il aurait mérité la caméra d'or, et c'est la découverte d'un très grand cinéaste. Bon, on verra. Peut-être que je m'avance trop, mais je pense qu'on a découvert en tout cas un cinéaste d'un talent exceptionnel.
Une vie à l'étroit de Kantemir Balagov. J'avais inscrit également La Belle et la Belle de Sophie Fier avec Sandrine Kiberlin et Agathe Bonitzer, qui incarne la même Margot, mais avec 25 ans d'écart. C'est une comédie qui avance un peu en funambule sur le fil qui sépare le fantastique du réalisme jusqu'au bout. Jean-Marc,
Moi j'aime beaucoup.
Ah, tu aimes beaucoup?
Oui, ouais, je trouve que peu à peu le film dévie des règles de la comédie pour devenir extrêmement émouvant. Et ce personnage comme ça qui rencontre elle-même et c'est, qui inverse un scénario d'apprentissage, c'est finalement par elle jeune qu'elle va apprendre à mieux vivre. Elle, en tant que famille de l'âge, je trouve ça très beau.
Avec un Melville Poupeau qui va jouer précisément un rôle très important pour réunir les deux Margot. Xavier ?
Je suis complètement d'accord avec Jean-Marc, c'est un film que j'aime beaucoup, qui nous surprend sans cesse, qui ne cherche pas à nous expliquer son postulat de départ, c'est donné d'emblée, voilà, elle se rencontre, elle à 46 ans, l'autre à 25, et c'est un film qui raconte le destin, qui raconte les choix que l'on n'a pas fait ou que l'on voudrait avoir fait ou de ne pas avoir fait, mais ça raconte aussi ce qu'est le destin d'une femme, c'est pas tout à fait celui d'un homme, il y a un corps, il y a une façon d'être au monde, il y a une façon d'être un objet de désir et de séduction. Je trouve le film jamais dogmatique, toujours intelligent, toujours subtil. Et la fin est extrêmement réussie parce qu'il fallait pouvoir s'en sortir et elle y arrive.
Nicolas.
Moi, je trouve que c'est une comédie charmante avec, ou peut-être l'une des meilleures de Sophie Filière. Non, mais oui, non, mais c'est intéressant. Ouais. Il y a vraiment un côté psychanalytique en plus. Après, faut pas non plus exagérer. Là, il y a une nonchalance dans le récit. C'est un, il y a des scènes un peu inégales. Je trouve que c'est un des meilleurs films de Filière.
C'est un humour étrange qui fait ça.
Oui, oui.
Y a, non, mais c'est bien voilà, au contraire. Mais
c'est un des meilleurs films de Filière qui a toujours ce sens de l'embarras amoureux et de la gaucherie et qui travaille un peu ça. Et puis le langage et tout ça. Après, voilà, je suis pas non plus. Enfin, c'est pas. Je trouve que le film est assez inégal dans sa dans la tenue de son récit, mais c'est tout à fait recommandable.
On voit quand même qu'elle a la carte.
Parce que Michel. Mais non. Mais après, Kyberlin est formidable aussi. Elle tient beaucoup le film aussi. Elle a,
oui, y a Kyberlin qui est. Je suis partagé parce que d'une part, il y a une incontestable originalité de scénario avec cette histoire de deux femmes qui sont la même, qui se rencontrent à 20 ans de distance, qui sont en fait dans le même plan. Oui. Ça, c'est très drôle.
C'est drôle. Dès le début du film, d'ailleurs.
Les deux comédiennes sont très bonnes, mais ce qui s'est transformé dans une sorte de chef-d'œuvre de surréalisme, de loufoquerie, et il faut dire qu'il y a que ça ne tient pas la route, c'est-à-dire que c'est un film qui est franco-français, qui plaît beaucoup, effectivement, elle a la carte depuis toujours,
oui,
elle a eu en moyenne plus de bonnes critiques que Billy Wilder ou que Stanley Kubrick.
Qu'est-ce que tu veux dire, Jean-Marc? Thomas Anderson est moins bon réalisateur que Sophie Filière.
Livre à moi de le penser.
Voilà. Donc je trouve que c'est pas du tout un film que je méprise, loin de là, mais c'est pas non plus ce grand film qu'on nous annonce encore une fois un peu partout.
Je suis d'accord.
Qui me paraît délire d'interprétation.
Ça, Xavier et moi n'a pas dit ça. C'est un film extrêmement charmant. Personne dit que c'est un chef-d'œuvre.
Oui, mais tiens pas la distance. Michel, il n'est pas pétillant. Pensez à
Howard Oaks.
Howard Oaks aurait un sujet comme ça. Il ferait une comédie pétarade, brillante.
C'est pas brillant. Sophie Filière,
c'est pas brillant. C'est une forme de dramédie.
C'est original, mais c'est pas totalement accompli.
Au contraire, elle va pas dans la loufoquerie. Elle va dans une certaine mélancolie, une certaine rémission des choses. Et elle est très juste dans ce qu'elle raconte. Formellement, le film est à la hauteur et cohérent. On lui demande pas d'être du Hawks. On s'en fout.
La belle
Mais non, Michel.
C'est Sophie Filière. Allez, un conseil pour terminer cette émission. On commence par Jean-Marc.
Alors, la reprise de trois films de Rivette, Merry Go Round, Norrois et Duel, trois films de la fin des années 70, qui sont, pour ceux qui aiment Rivette, c'est ce qu'il a fait de plus étrange et de plus expérimental. C'est trois films très audacieux, qui ne ressemblent vraiment à rien de tout ce que le cinéma français a pu proposer.
Le conseil de Xavier. Alors,
comme Nicolas m'a détroussé de mon conseil, je vais me réfugier dans The Captain l'usurpateur de Robert Schwanke, qui est l'histoire vraie d'un jeune déserteur qui, à quelques jours de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, va endosser le rôle d'un capitaine et va devenir à son tour un ange de la mort dans la dernière ligne droite de la Seconde Guerre mondiale. Un film sur la porosité, la toxicité du mal quand on lui donne les moyens de s'exprimer. Un film assez glaçant, assez cynique, qui dure plus de 2 heures dans un noir et blanc sépulcral et resté bien jusqu'au bout, parce que la fin, le générique de fin, vous glace encore un peu plus que le film lui-même.
Mon conseil, c'est un film que je trouve très injustement reçu cette semaine dans la presse. C'est Après la guerre, le premier film d'une Italienne, Anna Rita Zambrano, sur un ancien brigadiste rouge réfugié en France à l'époque de la doctrine Mitterrand et qui doit fuir en Amérique du Sud. Moi, évidemment, j'ai pensé beaucoup à Battisti, entre autres parce que l'acteur s'appelle Battiston. Et dans sa fuite, il va emmener sa fille de 16 ans qui, elle, se sent française et sur ces anciens terroristes qui ne renient rien, mais surtout sur leurs enfants qui ne se sentent pas concernés. Je trouve que ce film est très juste, beaucoup plus juste que ce que j'ai lu parfois cette semaine sur Après la guerre. Le conseil de Michel.
Alors c'est une édition en DVD accompagnée d'un livre de 200 pages de Pierre Berthomieux sur un très grand film, un très grand western justement, un sur-western, Duel au soleil, que, juste dans l'immédiate après-guerre, qui est un film produit par David Selznick, mais en même temps, on ne sait pas exactement qui a fait ce film, puisque King Vidor a beaucoup travaillé dessus, aussi Joseph von Sternberg, aussi William Dieterle et le producteur lui-même. Et Berthomieux analyse tout cela, et la copie est splendide, en technicolor glorieux, comme la publicité le disait, glorious technicolor, et Jennifer Jones, la femme de Selznick, on ne montre pas sa croupe en permanence, mais je peux vous garantir, c'est un film d'un érotisme,
c'est un le film d'un érotisme Nicolas,
fulgurant.
Oui. Pardon, l'émission se termine.
Moi, c'est Les Bonnes Manières des Brésiliens Juliana Rojas et Marco Dutra, qui est un film absolument merveilleux, féerique. Alors, ça commence comme un drame d'Almodovar entre deux femmes, une bourgeoise qui engage une nounou, et ça se transforme en film fantastique et féerique. Faut pas en dire trop, faut aller voir ça dans la lignée de Klemmer Manosafilo, des de Récif et de tous ces films-là de la nouvelle
tous
vague brésilienne, c'est formidable.
Excuse-moi Nicolas, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Xavier Le Herpeur, Jean-Marc Lalanne, Nicolas Chalère, Michel Simon pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin, avec la collaboration de Lisiane Selam ce soir à la technique, et je le remercie, Philippe Duclos. La réalisation était de Didier Lagarde. Notez bien s'il vous plaît que le prochain enregistrement du Masque, eh bien ce sera le jeudi 5 avril, cette fois, je vous attends nombreux à 20h au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour deux émissions, l'une consacrée au livre, l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parle littérature, et donc à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.